Bonjour les explorateurs, vous allez accoster en Terra Incognita, le monde étonnant des adultes.
Bonjour, je m'appelle Kélène, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Bienvenue aujourd'hui à la 4e émission de Terra Incognita, le monde étonnant des adultes, sur Radio, notre média. Savez-vous que le monde des adultes nous semble étonnant? Pour essayer de le comprendre un peu mieux, nous allons venir à leur rencontre. Terra Incognita en vue, à l'aventure. J'interviewe aujourd'hui l'adjudant-chef Pâté, de la caserne de Brasparts, qui supervise la formation des jeunes sapeurs-pompiers sur les casernes de Brasparts, Huelgoat et Carré. Avec son équipe, ils inculquent au JSP les bases requises pour pouvoir devenir sapeurs-pompiers. Ce sont des enseignements techniques, mais également le comportement de la civilité, le savoir-vivre et le savoir-être. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, donc moi je me présente, je suis l'adjudant-chef Laurent Pâté de la caserne de Brasparts et je suis aussi responsable départemental des jeunes sapeurs-pompiers du Finistère.
Ça fait beaucoup de temps que vous êtes pompier ?
Ça va faire 23 ans que je suis pompier.
Comment devient-on pompier ?
Soit on devient pompier par vocation, c'est-à-dire que soit il y a des gens, des pompiers, ou c'est parce que les parents ont été, le père a été pompier, le grand-père a été pompier. Moi, ce n'est pas le cas. Je viens pas de famille pompier. C'est-à-dire que moi, ce qui est arrivé, c'était un hasard. C'était qu'un jour, j'habitais juste au-dessus de la caserne, en fin de compte, quand je suis arrivé sur Brasparts. Et puis, ils cherchaient des conducteurs poids lourds. À l'époque, on pouvait passer le permis poids lourd à l'armée, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc, ils avaient une difficulté de rechercher des conducteurs poids lourds. Donc, je me suis dit, comme je l'ai passé à l'armée, pourquoi ne pas le mettre au bénéfice, au bien des casernes des pompiers. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans les pompiers.
Vous avez décidé de vous consacrer aux jeunes. Comment vous êtes venu à cette vocation ?
On était à un moment, c'est-à-dire qu'il manquait des jeunes, il manquait des pompiers. Donc, un collègue qui était du Huelgoat avait dit, pourquoi on ne créerait pas une section de jeunes sapeurs-pompiers ? Sachant qu'il y en avait déjà qui existaient, mais il n'y en avait pas beaucoup dans le Finistère. Donc la plus vieille caserne des pompiers, elle a 30 ans, et c'est à Pont-l'Abbé. Donc nous, on avait décidé, avec ces trois casernes, avec Carré, Brasparts et Huelgoat, de se réunir, se dire pourquoi on ne ferait pas, parce que recruter des pompiers que sur Brasparts, on n'aurait pas eu assez. Et donc on s'est dit, on va le faire, on va se lancer dedans et montrer ce que nous on sait faire, et le montrer aux jeunes sapeurs-pompiers et leur dire, montrer exactement les mêmes bases qu'un pompier.
L'année dernière, je voulais vous rejoindre, mais comme j'étais trop jeune, j'ai pas pu.
Oui, c'est vrai. Donc, parce qu'il y a un âge, c'est vrai que ce qui est le plus intéressant pour un jeune sapeur-pompier, c'est de, quand il va rentrer, c'est d'avoir au moins 13 ans. Parce que comme il a un diplôme au bout, donc il va faire 4 ans, donc à 17 ans, il va sortir. Entre 17 ans et 18 ans. Et donc, il a moins, s'il veut rentrer dans les jeunes dans les pompiers volontaires, il a moins de temps à attendre. C'est-à-dire que quand on est trop jeune, on va sortir à 16 ans. Et donc, ça veut dire qu'on va attendre un an et demi avant de rentrer dans les pompiers. Donc, c'est long. Donc, on essaye de couper cette coupure-là de manière que ça soit moins long aussi, pour qu'il puisse rentrer, s'il le veut.
Y a-t-il beaucoup de jeunes à vouloir rejoindre vos rangs ?
Y a énormément de personnes. Énormément, énormément. Souvent, c'est-à-dire que théoriquement, nous, on recrute légèrement un petit peu plus que la moyenne. C'est-à-dire que généralement, on devrait rester sur 14, entre 14 et 16 jeunes sapeurs-pompiers. Sachant que dans certains coins, il y a à peu près une quarantaine de dossiers pour 16 places. Donc après, ce sont des sélections et voilà.
Est-il dur de donner les bases ? Ou est-ce que finalement, la jeunesse ne serait pas si désorientée que ce que l'on prétend ?
D'induquer les bases, c'est sûr que ça, pour certaines personnes, c'est une nouvelle chose. Donc, ils ne sont pas habitués à parler le langage pompier. Donc, c'est ça ce qu'il va falloir qu'ils apprennent. Après, donc, autrement, non. Parce que ce qu'on va leur induquer, c'est leur montrer ce que nous, on sait faire, ce qu'on fait en pompier. Parce qu'ils apprennent exactement la même chose que nous. C'est-à-dire qu'un professionnel, qu'un volontaire, la seule chose qu'ils n'ont pas, c'est les interventions.
La société évoque de plus en plus la réactivation du service militaire. Finalement, Vous vous rapprochez du but recherché. Comment voyez-vous les choses?
On n'est pas vraiment militaire. Donc on a quand même une rigueur. Donc on doit être. C'est une rigueur. Donc on implique la rigueur. C'est-à-dire qu'on doit être au niveau de notre comportement. Donc notre comportement doit être irréprochable. En une tenue irréprochable, c'est normal, parce qu'on dépend quand même du Finistère. On représente le Finistère. Donc c'est tout à fait normal qu'on soit irréprochable au niveau de tenue, au niveau de tout. Et en fin de compte, après, dans les pompiers, y a une hiérarchie aussi. Donc c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie. Par exemple, un caporal ou un caporal va respecter son sergent. Le sergent va respecter son adjudant ou son adjudant-chef. Et l'adjudant-chef va respecter aussitôt la hiérarchie toujours plus haut. C'est-à-dire voilà, c'est qu'on se respecte entre nous. Et on va tous dans le même sens.
Vous donnez les bases de secours aux personnes à vos jeunes sapeurs. Est-ce que ces enseignements ne devraient pas être dispensés à tous les jeunes en milieu scolaire, en considérant que ça fait partie de la formation initiale des citoyens?
Pour moi, oui, ça serait bien qu'ils apprennent ça à l'école. C'est vrai, parce que plus on sera à apprendre le secourisme, à sauver des gens, et plus on aura plus de facilité à intervenir plus vite. C'est pour ça qu'il y a une application qui existe. C'est-à-dire que les gens peuvent s'inscrire dessus et ça s'appelle, j'ai plus le nom en tête. Et c'est une application qui permet, par exemple, d'appeler quelqu'un qui a une formation et de venir au secours. C'est-à-dire que, admettons, quelqu'un fait un malaise dans le bourg de Brasparts ou autre et qu'il y a, par exemple, une personne qui est là. Donc, elle peut être bipée sur son téléphone pour porter les premiers secours tout de suite.
Les pompiers forment un corps, mais avec des volontaires civils. N'est-il pas trop difficile de garder une cohésion avec des membres venant d'horizons sociaux professionnels et différents?
Donc, déjà, on n'est pas volontaire civil. On est volontaire. On est pompier volontaire. Après, il y a les pompiers professionnels. Donc, ça marche très bien entre eux. On a des relations très bonnes aussi avec eux.
Et les pompiers de Paris.
Et les pompiers de Paris, c'est encore autre chose. Voilà, les pompiers de Paris, c'est l'armée. C'est vraiment l'armée. Donc, ce n'est pas la même chose que les pompiers professionnels ou autres. C'est un peu les pompiers de Paris. Il y a les pompiers de Paris et puis il y a aussi les marins-pompiers qui sont de Marseille. Voilà, de Marseille. Donc, c'est pareil. Donc, ce sont des gens qui sont militaires avant tout. Voilà. Vis-à-vis de nous, on dépend de la sécurité civile et eux dépendent plus de l'armée, du ministre de l'armée.
Est-il facile de recruter des volontaires adultes alors que nous vivons une époque de l'individualisme tend à devenir la norme?
Recruter des pompiers, on arrive à en recruter, mais le gros souci du département, c'est de trouver des gens disponibles en journée. C'est-à-dire que on a beaucoup de monde, donc mais par contre, les gens travaillent en journée, donc ils peuvent pas être présents pour la disponibilité. Et c'est là qu'il y a un manquement de personnes, en fin de compte.
Vous intervenez surtout lors des drames ou d'événements très difficiles. Avez-vous parfois des interventions heureuses? Pouvez-vous nous en raconter quelques-unes?
Des interventions heureuses, on en a plein. Si tu veux, on en a beaucoup. C'est déjà rien que de fait de savoir que la personne, avec notre aide, on a réussi à la sortir d'une détresse ou autre. Déjà, c'est tout bénéfique pour nous. Après, on va intervenir aussi bien sur des accouchements. Donc, des accouchements, c'est la naissance, c'est une naissance, donc c'est une chose heureuse. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il n'y a pas toujours des choses qui vont être réjouissantes.
Par exemple, le feu l'année dernière.
Le feu, donc ça, c'est dans nos cordes à nous. Mais sur les décès, sur les choses comme ça. Donc après, il faut savoir que on est quand même, quand c'est une grosse chose dure, on a quand même un service derrière qui va être mis en place, que ce soit un psychologue, des choses comme ça, pour pouvoir affronter les choses comme ça. Après, nous, étant anciens, notre rôle à nous, c'est de faire attention aux nouveaux rentrés. C'est-à-dire que voilà. C'est-à-dire que moi, comme pour ma part, c'est ce que j'essaye de dire aux jeunes, c'est qu'il faut toujours penser au pire. Qu'on va sur une intervention, c'est le pire. Parce que quand on arrive sur quelque chose, ou que c'est quelque chose, ou que c'est pas grave, au moins on est content, on est déjà moins stressé, que si on va directement sur une intervention, on dit, ça va être facile, et puis qu'en fin de compte, on se retrouve sur un plan où c'est plus dur, on n'est pas déjà conditionné. Là, on se conditionne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on part en ambulance, à chaque fois qu'on part n'importe en camion ou n'importe quoi, à chaque fois, on dit pourquoi on part. Pour que tout le monde puisse se mettre à sa manière, se conditionner à sa manière. Et chacun doit avoir son poste à faire. On doit savoir, par exemple, quand on va en ambulance, on sait si on part sur un arrêt cardiaque, chacun a son rôle. Donc tout de suite, on sait ce qu'on doit faire. Et comme ça, ça nous permet de pas perdre de temps et des choses comme ça.
Du coup, vous ne devez pas vous dire que c'est facile, que ça va être bouclé. Par exemple, moi, je fais un sport de combat.
À chaque fois qu'on part en compétition, notre entraîneur nous dit « Vous dites pas que c'est plié, sinon vous allez pas donner le meilleur de vous-même. » Et bah, il arrête pas de nous parler de trucs comme ça, parce que sinon on peut perdre.
Après, c'est sûr que de se dire « voilà, on perd, bah, nous on a rien à perdre, c'est pas une compétition non plus. Nous, c'est des vies qu'on a entre nos mains, donc il y a des choses où qu'on sait qu'on pourra faire quelque chose, ou des gens qui vont décéder parce que, bah, malheureusement, accident de voiture ou autre, certains se décèdent dans les accidents, et là, on pourra rien faire, parce que c'est trop, il y a trop de choses, donc en fin de compte, il y a eu trop de, comment ça s'appelle, de lésions. Donc là, il y a des gens, on pourra rien faire pour eux. Mais c'est là malheureux, parce que là, on se sent un peu... impuissant. On est impuissant. Voilà. Que des fois, bah, quand on sait, par exemple, quand on a une chose qu'on maîtrise, c'est facile. Mais quand on a une chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est plus difficile. C'est-à-dire qu'on va pas on n'est pas habitué à parler avec la famille sur un mort. C'est pas facile non plus. Dire, bah voilà, votre mari est mort, c'est dur. Nous, on ne sait pas parler à ces gens. Un médecin va arriver, lui, il a des mots, il sait comment parler à la famille. Nous, on n'est pas conditionné pour ça. Donc, par exemple, pour tous les restes, oui, c'est bon pour le squelette, les petites blessures, les choses comme ça, on va pouvoir rassurer les gens. Hein. Donc après, c'est vrai qu'aussi, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on a beaucoup de femmes dans les pompiers, beaucoup de femmes aussi, qui sont très, très bien, parce qu'on sait très bien que les enfants, devant un homme, devant une personne d'un homme, on a une grosse voix ou des choses comme ça. Donc le petit enfant, il a plus peur que si c'est une femme, elle a plus la façon d'y aller, de plus facilement, avec sa voix douce ou des choses comme ça. Et après, bon, y a les jeunes filles aussi. Quand on arrive à une jeune fille qui arrive à peu près à 12-14 ans, de se déshabiller devant un pompier, c'est plus difficile. Parce que si on doit contrôler, voir si les blessures, si elle est blessée ou quoi, c'est plus facile que ça soit une femme qui y soit, si on en a une. Et c'est, moi, je trouve ça plus facile. Donc c'est bien aussi d'avoir des femmes dans les centres de secours.
C'est récent, les femmes dans les centres de secours, à peine 100 ans pour les pompiers, sinon pour les infirmières, ça fait assez longtemps.
Voilà, c'est vrai que les pompiers, c'était un peu chauvin dans le temps. C'est vrai que c'était un métier d'homme. Maintenant, je pense que ça a changé, ça a quand même inversé. On a quand même pas mal de femmes. Sachant que moi, je peux parler autant que dans le Finistère, en tant que GSP, on a à peu près sur 201 GSP, c'est 200 à 107 garçons et 94 filles. Donc ça fait une parité à peu près égale partout. Sachant qu'il y a des centres de secours qui ont recruté des GSP, ils sont plus de filles que de garçons. Donc on voit bien que les filles ont envie de rentrer dans le milieu pompier.
Lorsque vous êtes en intervention, avez-vous dû faire face à des incivilités ? Quelles peuvent-elles bien être ?
Nous, on n'a pas, dans les campagnes, on n'a pas trop ce problème-là. On n'a pas ce souci. Après, dans les grandes villes, oui, ils ont. Parce que dans des quartiers qui sont assez durs, ils sont attendus. C'est les gens, ce qui est un peu dommage, c'est que les gens, on va sauver des gens de chez eux, de leur quartier. Et eux, ils ne font pas de différence entre gendarmerie et pompiers. Parce que soit on les empêche dans leur trafic, c'est ce que je pense. On doit les embêter, alors qu'on est là pour secourir quelqu'un de leur HLM aussi bien. Et donc, c'est ça qui est un peu dommage. C'est qu'ils ont du mal à comprendre ça, qu'on est là, comme par exemple, les brûler une voiture, ils vont brûler des voitures, mais sachant qu'ils vont brûler la voiture de quelqu'un qui vit dans leur cité. Et aussi bien, cette personne-là n'a peut-être pas l'argent nécessaire pour en racheter une deuxième. Donc, ils détruisent aussi sa vie, son moyen de locomotion pour aller travailler. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Mais c'est pour ça, c'est vrai que nous, dans nos campagnes, on est bien. C'est vrai qu'on n'a pas ce problème-là encore.
Si quelques-uns de nos auditeurs hésitent à vous rejoindre, qu'avez-vous à leur dire pour les convaincre ? Pouvez-vous nous expliquer le mode de recrutement ?
Les convaincre, ce que je veux dire, c'est que le GSP, c'est l'école de la vie. On va apprendre plein de choses. On apprend plein de choses. On apprend le respect, on apprend le secours, le secourisme. Le secourisme, comme on disait, c'est une chose primordiale, qu'on puisse sauver des gens. Hein, à savoir que si un GSP, au bout de son PSE1, il est considéré comme secouriste dans son école. Donc c'est-à-dire qu'il est incapable.
Par exemple, s'il y a un professeur ou un élève qui fait un malaise dans la classe ou qui a.
Voilà. Il a appris les premiers gestes. Donc il est capable de pouvoir. Après, quand il va plus loin, le GSP, après, il va apprendre à travailler en équipe. C'est-à-dire que ce qu'on fait en pompier, c'est la deuxième formation qu'ils ont. C'est-à-dire que la première formation, c'est secours isolé, secouriste isolé, c'est-à-dire qu'on est secouriste tout seul. Et après, la deuxième formation qu'ils ont en GSP, c'est travailler avec du matériel et travailler méthode pompier. C'est-à-dire que chacun a un rôle à faire, chacun son rôle. C'est-à-dire que si quelqu'un doit faire un massage, il y en a un qui fait le massage, l'autre va être au bas-vue pour donner de l'air, on va faire l'air. On a chacun, vraiment, chacun son truc. Après, on change quand c'est un arrêt cardiaque, parce qu'on ne peut pas rester 10 minutes toujours amassé ou toujours le même amassé, parce que c'est quand même épuisant. Et après, ben, pour des choses, et ben, pour des, ben, que ça soit pour le, aussi pareil pour le secouriste, c'est-à-dire que pour prendre des tensions, des choses comme ça, chacun peut prendre son rôle. L'un va faire la tension, l'autre va prendre, commencer à peut-être à prendre la ventilation ou autre, ou regarder s'il n'y a pas des lésions. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, hein, vraiment un travail. Alors c'est vrai que c'est une superbe école de la vie, c'est une superbe chose qu'on apprend beaucoup de choses. Et c'est vrai que, les jeunes, et ben, c'est vrai, puis moi je me dis, on peut leur tirer le chapeau, parce que pendant ces 4 ans-là, à la place de rester dans un canapé à regarder la télé ou à jouer avec une console, pendant ces 4 ans-là, ben, ces jeunes-là, ils vont donner de leur temps pour être formés et au niveau de la population, donner des, par exemple, sachant qu'un GSP doit être aux commémorations, donc pour respecter tous les anciens combattants de la guerre qui sont morts pour la France. Donc c'est un respect aussi qu'on leur doit aussi. Donc c'est ce que les GSP aussi incluent aussi. Donc après, on a plein de choses qu'on peut faire aussi. Comme une année, ben, ils sont venus voir les grands feux. Pour les grands feux, ben, les GSP étaient là pour préparer à manger, donner avec la réserve départementale. Parce qu'on a une réserve d'anciens. C'est qu'une fois qu'on a fini notre carrière pompier qui s'arrête à 65 ans, on peut rentrer dans une réserve départementale où on va peut-être donner des coups de main, soit aller ramener des camions en vérification, soit on va aussi, par exemple, sur des grands feux, mettre ces gens-là à la réserve pour préparer à manger pour tous les gens qui sont sur le feu. Et ou alors, ça peut être aussi, par exemple, là, on a le brevet des GSP. Et ben, ils vont se charger de monter le parcours sportif pour le brevet et aller le chercher.
Est-ce que vous travaillez en coordination avec d'autres pays européens? Je pense que oui, puisque du coup, pendant les feux des bombes d'arrêt, il y avait des Allemands, des Suédois qui étaient venus.
Alors là, c'est encore différent. C'est différent. Les Suédois, c'est-à-dire que c'est un... Comment on appelle ça? C'est comme dans les Canadaires qui sont dans le sud de la France. Donc, il y a une... Comment ça se passe? C'est déclenché par les Canadaires ou tout ça. C'est une demande, de fait. On doit faire une demande. Le département du Finistère demande à avoir des Canadaires. Ça peut être refusé comme pas accepté. Les premiers, ben, on avait demandé seul de Marignan. Il y avait
celui qui était d'Orléans aussi, je crois.
On n'a pas pu les avoir parce qu'il y avait les feux aussi en bas. Donc la seule chose, après, c'est l'Europe qui s'est mobilisée pour nous envoyer des Canadaires suédois, en fin de compte. Voilà, qui nous ont aidés.
Alors j'ai vu un documentaire assez marrant il n'y a pas longtemps. En fait, c'était tout un village, ils étaient tous pompiers, le maire, les enfants qui avaient l'âge étaient jeunes sapeurs-pompiers, tout le monde.
Donc là, c'est vraiment leur passion. Alors, c'est pas mal de voir des gens comme ça. C'est sûr que de voir une famille comme ça, mais nous, c'est pareil, on a des familles, ben, le grand-père a été pompier, le père a été pompier, maintenant, c'est la fille qui a été pompier, après, peut-être que ce sera son petit-fils, ou n'importe. C'est vrai que c'est bien. Donc c'est vachement bien de continuer cette perpétuité. Puis après, bon, généralement, quand on est baigné dans les pompiers, de toute façon, généralement, on continue dans les pompiers, on le veut le faire. Et puis en plus, bon, c'est souvent, bah, comme on disait, c'est qu'au bout de ces 4 ans, ils ont un diplôme qui est reconnu par l'État. Donc c'est maintenant, ce diplôme-là va sûrement augmenter un peu. C'est-à-dire que maintenant, ils veulent le faire passer en bac pro. C'est-à-dire que ce serait quand même un niveau bac, ce diplôme-là. Donc c'est enrichissant, puis au bout de ces 4 ans, de se dire, bah, j'ai décroché ça, et de mettre ça sur un CV, dire, bah, pendant mes 4 ans, j'ai fait 4 ans de GSP, bah, il y aura un impact au niveau de l'entrepreneur qui veut embaucher, il dit, bah, ce jeune-là, pendant ces 4 ans, il a donné du temps à faire ça, et donc c'est vrai que c'est toujours bien, même, je pense que même le GSP peut être fier de le mettre sur son CV. Ça, il peut le faire, même s'il devient pas, s'il veut pas être pompier après. Mais de mettre ça, ça peut être c'est une fierté. Et nous, on est fiers d'avoir la réussite. Quand on les emmène au brevet, puis qu'ils ont la réussite, nous, on est fiers d'eux. Voilà.
Je vous remercie pour vos réponses. J'espère pouvoir vous offrir un café à la prochaine vente de calendrier.
Pas de souci. Pas de souci. Ça sera avec plaisir.
nokrsho amiski inendri shonchim gorno amiski nokrsho yet ha mi fon khale.